21 avril 2018 et voici au quotidien des quotidiens votre revue de presse. Avec vous pour les prochaines 90 minutes, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis qui est encore absente, disons-le franchement, on ne peut plus se fier sur personne. Cependant, on peut se fier sur Mathieu Tessier à la régie. Mathieu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bon, le 20 avril, pour vous, c'est une date qui évoque bien des choses?
Absolument pas.
Ah bon?
Mais non, c'est un trait d'humour. Il s'en est passé des choses, mon cher François. Un 20 avril, si je remonte comme, disons, en 1534, c'est la journée où, semble-t-il, le navigateur Jacques Cartier aurait quitté Saint-Malo pour se rendre en Amérique. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais il a quitté du moins Saint-Malo cette journée.
Ça lui donne une chance d'arriver à temps pour le printemps.
Pour le 375e anniversaire de Montréal. Non, c'est pas vrai. En 1769, à Cahokia, près de la future ville de Saint-Louis, le chef de tribu Ottawa-Pontiac est assassiné. On se souvient que Ottawa-Pontiac était un allié de la France dans ce temps-là. En 1890, Marguerite Dioville, qui fonda les Sœurs Grises, est la première Canadienne déclarée vénérable par le Vatican. En 1910, à Ottawa, une loi est adoptée créant la Marine canadienne. En 1940, Radio Corporation of America présente une nouvelle invention, le microscope électronique. À Montréal, en 1963, une bombe du FLQ tue Wilfrid O'Neill, veilleur de nuit de bureau de l'armée. Pierre-Éliott Trudeau, quant à lui, en 1968, prête serment comme 15e premier ministre du Canada. Une fusée américaine lance le satellite canadien Anik 2 en 1973. Toujours un 20 avril, en 1989 cette fois, ou pardon, en 1986 à Moscou, le pianiste Vladimir Horowitz donne son premier récital en Russie depuis son exil de 1925. 1989 à Ottawa, la Canadian Banknote Company imprime le dernier billet de 1$. Remplacé par une pièce, le UAR. En Espagne, 1992, ouverture de l'exposition universelle de Séville. En 2004, toujours un 20 avril, le brasseur ontarien Slimane offre 36,5 millions de dollars pour accueillir la microbrasserie Unibrew de Chambly. 2009, les 167 passagers et membres d'équipage sortent indemnes d'une prise d'otage à bord d'un avion de la compagnie canadienne CanJet en Jamaïque. Et en 2012, une violente manifestation d'étudiants se déroule autour du Palais des congrès de Montréal où le premier ministre Jean Charest participe au Salon Plan Nord. Et pour ce qui est des naissances du 20 avril, Napoléon III, né Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, est né un 20 avril 1808. Odilon Redon, un peintre et graveur français, est né aussi un 20 avril. Le premier ministre Maurice Duplessis, qui est né à Trois-Rivières en 1890. Le comique du cinéma muet Harold Lloyd, j'ai vraiment un problème avec... Je fais de la dyslexie aujourd'hui, entre autres. En 1893, et le peintre espagnol Juan Miró, très cher à mon cœur, est né un 20 avril 1893. Et pour ce qui est des décès, Jérôme Lemay, le chanteur du groupe Les Girola, voilà, nous a quittés en 2011. Jean Gascon, l'acteur québécois, nous a quittés en 1988. Et Bram Stoker, l'auteur
de
Dracula.
Père de Dracula.
Exact,
oui.
Qui était né, lui, en 1847, nous a quittés un 20 avril 1912.
Et puisque vous nous parliez du remplacement du billet de 1$, je ne résiste pas au plaisir de l'anecdote zoologique pour vous dire que le huard, qui donne son nom à la monnaie canadienne, a été reclassifié en zoologie. C'est dorénavant un canard de la famille des plongeons, ce qui fait que la monnaie canadienne, c'est le plongeon. Allez, une journée en actualité largement dominée par les affaires de mœurs et par le cannabis. Il semblerait que les accommodements raisonnables ont pris une pause aujourd'hui. Mais je ne résiste pas tout de suite en commençant cette émission à vous faire part de la nouvelle. c'est demain que le printemps arrive pour vrai. Je vous le dis tout de suite, regardez la météo, ça vaut la peine, ça fait du bien au moral. Demain, le printemps arrive. Vous allez me dire, c'est pas trop tôt, mais bon, on prend ce qu'on peut avec ce qu'on fait. Cannabis, une campagne de promotion provoque colère et malaise. Ça nous est rapporté par Tristan Péloquin de La Presse. Publicité radio, commandite d'un festival de musique à Toronto, distribution de papier à rouler, de briquets et de broyeurs à herbe pour moudre le cannabis à l'effigie de sa marque de marijuana récréative, San Rafael 71. Le fournisseur Med Relief met toute la gomme pour faire parler de son cannabis récréatif avant l'adoption de projets de loi qui interdiront clairement ce type de promotion. Le producteur ontarien a signé une lettre d'entente avec la SAQ pour fournir 8 millions de grammes de cannabis à la future Société québécoise du cannabis. L'entreprise inscrite en bourse entendait faire bruyamment la promotion de sa marque au Club Soda ce soir pendant un spectacle qu'elle organisait avec un hommage à Bob Marley et à Fleetwood Mac. Mais la société a préféré faire volte-face devant la colère de la ministre Charlebois. Quelqu'un qui veut faire affaire avec une société d'État et qui ne respecte pas le projet de loi 157, c'est vraiment des êtres irresponsables, a tenu la ministre Charlebois, mise au courant de la campagne promotionnelle par La Presse. Comme ministre responsable de la santé publique, ça me heurte. Et croyez-moi, on va suivre de très près cette activité-là. Ça peut être drôlement mal reçu, a ajouté Mme Charlebois. En fin de journée, Med Relief a annoncé que son événement montréalais était annulé, mais aucune communication publique n'avait été faite au moment de publier. En Ontario, l'entreprise maintient sa campagne promotionnelle. Nous avons eu des discussions avec les gens de la SAQ qui sont des partenaires précieux et avons bien entendu leurs arguments. Nous sommes désolés des inconvénients que cela a pu causer, a indiqué le vice-président de Med Relief, Darren Karasiuk. Nous croyons fermement que pour éliminer la présence du marché noir, les gens doivent connaître nos produits. Pour ce faire, nous croyons que leur promotion devrait être réglementée comme l'alcool, a-t-il ajouté, mais nous allons respecter le souhait de la SAQ et du gouvernement. Les projets de loi sur le cannabis actuellement à l'étude tant à Québec qu'à Ottawa interdiront clairement aux producteurs de cannabis de faire de la promotion ou de la publicité de type style de vie qui glorifie ou banalise la consommation du pot ou quelque émotion positive qui y est rattachée. La loi fédérale interdira aussi toute commandite d'événements culturels ou sportifs par les entreprises de cannabis ainsi que la distribution d'objets promotionnels gratuits à l'effigie d'une marque. Politique canadienne. Si vous cherchez un emploi, eh bien sachez-le, la Banque canadienne d'infrastructure est ouverte, mais elle n'a toujours pas de président, ce que nous rapporte Maxime Bergeron dans La Presse. La nouvelle Banque de l'infrastructure du Canada, la BIC, n'a toujours pas de grand patron plus de 4 mois après son lancement officiel, mais le ministre responsable assure qu'elle est bel et bien ouverte et prête à investir dans des projets majeurs comme un train à grande vitesse Montréal-Windsor. La BIC sera là à long terme et va entreprendre des projets qui vont transformer l'économie d'une façon qu'on n'aurait pas pu imaginer, a avancé hier Amarjit Sohi, ministre fédéral des infrastructures, pendant une conférence de presse à Ottawa. Ce nouvel organisme, lancé officiellement à la fin de 2017, prévoit investir à terme 35 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures un peu partout au pays. Le gouvernement Trudeau espère que la BIC suscitera l'intérêt d'investisseurs internationaux et de caisses de retraite canadiennes qui pourraient générer un effet de levier pour financer encore plus de projets. Amarjit Sohi a soutenu hier que le poste de président serait pourvu très bientôt. Les membres du conseil d'administration ont été nommés en octobre dernier et la BIC s'est dotée à la mi-décembre d'un chef des investissements par intérim. La principale priorité du ministre était d'abord de mettre en place une structure de gouvernance solide, a-t-il dit, puisque la BIC sera là à long terme. Même si le gouvernement Trudeau ne s'implique pas dans la sélection ou l'évaluation des projets, le ministre Sohi affirme que la BIC en évalue plusieurs en ce moment. Aucun n'a encore été approuvé, a-t-il été confirmé. Il a dit même co-inviter les investisseurs, municipalités et provinces à prendre contact avec le nouvel organisme dont le siège est à Toronto. Sans préciser la nature des projets à l'étude, le ministre a donné des exemples d'infrastructures qui pourraient être financées. Il a cité les trains à grande vitesse entre Montréal et Windsor et entre Calgary et Edmonton, qui font l'objet de discussions depuis des décennies sans toutefois avoir été réalisées. La BIC pourrait aussi considérer un éventuel investissement dans la ligne rose du métro de Montréal proposée par la mairesse Valérie Plante, avait dit le ministre l'automne dernier. La subvention fédérale de 1,3 milliard accordée par Ottawa au réseau express métropolitain, le REM, à Montréal, pourrait également être transformée en investissement de la BIC. Amarjit Sohi a refusé de commenter les critiques formulées récemment à l'endroit de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le promoteur du REM, en raison d'un manque de transparence allégué dans sa gestion du projet de train électrique automatisé. Et maintenant, si vous voulez retenir quelque chose de cette nouvelle et vous avez besoin de croire, eh bien, sachez-le, il n'y a pas de connexion entre la BIC et les élus du gouvernement fédéral, tout comme il n'y en a pas entre la Caisse de dépôt et les élus du gouvernement du Québec. Allez, un exploit ce matin, je vais réussir à vous mettre d'accord avec Donald Trump l'espace d'un instant. Trump dénonce le cours artificiellement élevé du pétrole, ce que rapporte l'agence France Presse. Le président américain Donald Trump s'en est pris vendredi aux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, estimant que les cours du pétrole étaient artificiellement très élevés. On dirait que l'OPEP recommence, avec des quantités records de pétrole partout, y compris des bateaux pleins à ras-bord en mer, a tweeté M. Trump. Les prix du pétrole sont artificiellement très élevés. Ce n'est pas bon et c'est inacceptable, a-t-il lancé. Cette sortie intervient alors que l'OPEP et ses 10 partenaires, dont la Russie, tiennent en Arabie Saoudite une réunion de suivi de leur accord de réduction de la production avant une réunion officielle en juin à Vienne. Cet accord, en vigueur depuis début 2017 et valable jusqu'à la fin de l'année, vise à faire remonter les cours du brut. Mais les extractions abondantes des États-Unis, un des trois premiers producteurs mondiaux, compensent la baisse de pétrole, la baisse de production de pétrole, oui, de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Allez, une première affaire de mœurs, oui, allégation visant Jerry Sklavounos, l'ancien député libéral, il est toujours député, mais il n'est plus au caucus libéral, une jeune militante s'est confiée à Tommy Chouinard de La Presse. Maude Félix Gagnon a raconté à La Presse jeudi les gestes dont elle dit avoir été victime de la part du député de Laurier-Dorion en 2015, au moment où elle était mineure. C'est notamment sur la foi de son témoignage que les autorités du Parti libéral du Québec avaient décidé de ne pas permettre à Jerry Sklavounos de réintégrer son caucus l'an dernier, même si l'élu n'avait pas été accusé dans le dossier d'Alice Paquette, a confirmé une source libérale. Cette dernière précise que le récit de Mme Gagnon avait été jugé crédible. Jerry Sklavounos n'a pas donné suite à nos nombreux appels visant à connaître sa version des faits. Il était présent cette semaine à l'Assemblée nationale où il siège à titre de député indépendant depuis son expulsion du caucus libéral en 2016. Joint une première fois dès mercredi soir, son avocat n'a pas émis de commentaires. Maude Félix Gagnon n'a pas porté plainte à la police. « Je n'ai pas besoin de la lourdeur d'un processus judiciaire présentement dans ma vie. J'ai d'autres choses à gérer et j'ai besoin de me concentrer sur le positif. J'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. » Aujourd'hui, âgée de 18 ans, elle siège au comité à la condition féminine de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. On choisit ses combats. J'ai choisi de ne pas porter plainte, mais j'ai choisi de le vivre autrement et de faire en sorte que, si possible, ça arrive moins, que ça n'arrive pas, de protéger nos filles et nos militantes. Maude Félix Gagnon s'est fait connaître dans le monde politique en 2013, à l'âge de 13 ans. Elle avait annoncé sur les réseaux sociaux son changement d'allégeance du Parti québécois au Parti libéral du Québec. Elle se disait déçue des décisions du gouvernement marois. À la fin d'avril 2015, Maude Félix Gagnon se serait rendue avec un ami à l'Assemblée nationale, comme il lui arrivait de le faire à l'occasion, pour assister à la période des questions. Elle aurait croisé Jerry Sklavounos dans le hall de l'hôtel du Parlement, près de la cafétéria. Elle lui avait déjà parlé à l'occasion d'événements partisans. « Ce serait cool que tu viennes voir le bureau du leader adjoint du gouvernement. On pourrait jaser », raconte-t-elle. Elle serait passée au bureau du député en fin d'après-midi, seule. Son amie était partie prendre le train pour rentrer à Montréal, précise-t-elle. La presse a joint cette amie jeudi, l'a confirmé les faits, ajoutant que Maude Félix Gagnon lui avait raconté sa mésaventure avec le député. Dans son bureau en cette fin d'avril 2015, le député aurait invité à souper Maude Félix Gagnon, alors élève de 4e secondaire. « Je lui ai dit, ce serait le fun que je demande à ma mère avant. » La remarque ne l'aurait pas refroidie, selon elle. Il lui aurait suggéré de se rendre après le repas dans son appartement situé au-dessus du restaurant Louis Hébert sur la Grande Allée. « On pourrait monter jouer aux échecs dans ma chambre », aurait-il déclaré. Elle lui aurait répondu, dans sa splendide naïveté, « Je ne sais pas jouer aux échecs. Yeah, » dans ma tête comme une voix qui s'entête à me dire que toi, t'es ma fête et dans mon silence, je pense au chemin à cette voix qui nous unit. Chaque jour que ton amour est sans détour, un trésor rempli de lumière se libère. Et les étoiles et le matin et le mirage d'être bien et la mélodie du bonheur. Et
Mara Tremblay, le printemps des amants. On va la laisser terminer avant de... Voilà, c'est fini.
Merci Mathieu. On passe aux pages du Devoir. Devoir qui consacre ses grandes nouvelles à l'actualité judiciaire. Il s'en passe des choses devant les tribunaux canadiens en matière constitutionnelle cette semaine. Je vous rappelle en guise d'introduction que la loi constitutionnelle de 1867, ce qu'on a appris à connaître dans le temps sous le nom de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique pour les plus âgés, cette loi prévoit que le commerce entre les provinces doit se faire en franchise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas taxer les produits d'une autre province. Problème, l'alcool. L'alcool sur lequel le droit constitutionnel canadien s'est largement bâti, eh bien, au Nouveau-Brunswick, c'est plus cher qu'au Québec. La tentation est là. On veut passer de l'alcool québécois au Nouveau-Brunswick. Voilà. Sauf que c'est illégal puisqu'il y a un monopole de vente au Nouveau-Brunswick. Question, est-ce qu'il s'agit d'une infraction à la Constitution? La Cour suprême, cette semaine, a répondu non. Bière, pétrole et fédéralisme à la Cour suprême, c'est le titre de Manon Cornelier qui signe un éditorial sur le sujet. Le jugement unanime rendu jeudi par la Cour suprême portait sur le pouvoir des provinces d'encadrer le commerce interprovincial d'alcool. Son analyse, devrait toutefois faire réfléchir les protagonistes de la dispute autour du pipeline Trans Mountain, y compris le gouvernement fédéral. Selon la Cour, l'article 121 de la Constitution interdit à une province de faire obstacle au commerce interprovincial, mais cette règle n'est pas absolue. Si une loi cherche avant tout à entraver les échanges, elle est anticonstitutionnelle. Si elle vise des objectifs de politique générale et que son impact sur le commerce est incident, elle est valide. Tout un avertissement pour l'Alberta et la Saskatchewan qui veulent légiférer pour limiter l'approvisionnement en pétrole et en gaz de la Colombie-Britannique et, du coup, y provoquer une hausse du prix de l'essence. Bref, l'affaire payée. Le gouvernement fédéral, lui, se dispute avec la Colombie-Britannique au sujet des pouvoirs que cette dernière peut exercer sur le projet de pipeline. Le jugement ne se prononce pas sur cette question ni sur les pouvoirs fédéraux inscrits à l'article 92 de la Constitution, mais la Cour offre d'intéressantes pistes de réflexion. Personne ne conteste la compétence fédérale en matière de pipelines interprovinciaux, mais pour des raisons environnementales, la Colombie-Britannique veut limiter la quantité de bitume qui transitera dans le futur pipeline et prévoit, d'ici la fin d'avril, de demander l'avis des tribunaux sur ses pouvoirs à cet effet. Le gouvernement fédéral rejette les prétentions de Victoria et juge inutile de demander l'avis de la Cour suprême comme le suggère le NPD fédéral. Il envisage plutôt de présenter un projet de loi réaffirmant son pouvoir d'assurer la réalisation des pipelines. Mais comment? En déclarant la préséance de ces lois sur celles des provinces dans ce domaine? En s'engageant à désavouer ces dernières quand elles font obstacle? L'une ou l'autre solution serait une attaque frontale contre le fédéralisme coopératif. Ira-t-il si loin? Il devrait prendre note du jugement avant de s'exécuter. Voici pourquoi. La Cour n'y parle que de commerce interprovincial, mais elle insiste tout au long sur le principe du fédéralisme et du juste équilibre à assurer entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux. Se référant au renvoi relatif à la sécession du Québec, elle écrit « Une interprétation large des pouvoirs fédéraux s'accompagne habituellement d'appels à la reconnaissance de pouvoirs provinciaux plus larges et vice-versa. Ces pouvoirs sont en symbiose. » Elle ajoute « Une facette clé de la diversité régionale est précisément que la Fédération canadienne confère à chaque province le pouvoir de réglementer l'économie à l'image des préoccupations locales. Le principe du fédéralisme étaye l'opinion selon laquelle les provinces d'un État fédéral devraient avoir la marge de manœuvre leur permettant de gérer le passage des biens tout en adoptant des lois qui tiennent compte de conditions ou de priorités particulières sur leur territoire. » Plusieurs autres passages vont dans le même sens. Le gouvernement devrait en prendre note et saisir la perche tendue par le NPD fédéral plutôt que de courir le risque, avec son futur projet de loi, de transformer ce qui est encore une dispute politique inquiétante en vraie crise constitutionnelle. L'autre grande nouvelle judiciaire tombée hier concerne la légalité de la loi 99. La loi 99, c'était cette loi votée par le gouvernement de Lucien Bouchard à l'époque pour réaffirmer le droit à l'autonomie du Québec. Eh bien, la Cour supérieure vient de reconnaître sa validité, ce que rapportent Marco Belair-Cirino et Amélie Pineda du Devoir. La loi 99, selon laquelle un référendum sur l'indépendance du Québec est soumis à la règle du 50% des votes plus 1, passe le test de la Constitution canadienne, tranche la Cour supérieure dans un jugement attendu. L'ex-chef du Parti Égalité, Equality Party, Keith Henderson, qui s'était lancé il y a 17 ans dans une croisade pour faire déclarer ultra-virace et nul 6 articles de la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, la loi 99, sur 14 articles, oui, par les tribunaux, perd une importante bataille. Rien dans les effets directs ou secondaires, juridiques ou pratiques de la loi 99 ne permet de conclure que les articles contestés par M. Henderson violent ou permettraient de violer la Constitution ou la Charte si le sombre scénario allégué par celui-ci, soit une victoire des indépendantistes à un référendum, devait se produire, écrit la juge Claude Dallaire dans une décision de 100 pages dévoilée jeudi. La loi 99, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2000 en guise de réplique à la loi sur la clarté, ne libère pas pour autant le Québec des obligations fixées par la Cour suprême du Canada. À cet égard, la juge Dallaire cite le passage de l'avis consultatif de 1998 du plus haut tribunal du pays qui indique qu'il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste une majorité claire en réponse à une question claire, suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De même, si un appui majoritaire était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre, souligne-t-elle à gros traits. Allez, une fois n'est pas coutume, on s'en va en France, le temps d'une chronique de Christian Rioux qui se penche sur la laïcité de l'État français qu'on perçoit souvent comme absolue. Eh bien, on va voir qu'il n'en est rien selon un récent discours d'Emmanuel Macron. C'est dans la nef du Collège des Bernardins, chef-d'œuvre de l'art gothique, que le président Emmanuel Macron avait choisi de s'adresser aux catholiques. Dans un discours évoquant à la fois Simone Veil, Georges Bernanos et Emmanuel Mounier, il a déploré le fait que le lien entre l'Église et l'État s'était abîmé et invité les catholiques à prendre toute leur place dans la vie politique française. « Ce dialogue est indispensable », a-t-il déclaré, « et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu'une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation et qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. » Depuis une semaine, ce discours de haut vol a été critiqué par certains et encensé par d'autres. Mais au-delà de cette discussion normale, il demeure la démonstration que face à un État laïque, les religions, et au premier titre celles qui a contribué à façonner la France depuis des siècles, gardent toute leur place dans l'espace public. On serait même tenté de dire que ce discours est une réponse à tous les faux procès que l'on fait dans le monde anglo-saxon à la laïcité française. En quelques mots, Emmanuel Macron aura répondu à ses détracteurs, et ils sont nombreux chez nous qui prétendent que la laïcité exclut les religions de l'espace public. Voilà un discours intéressant, donc, et une affaire qui est probablement à suivre. On fait une courte pause et on se retrouve avec le Journal de Montréal.
Qu'est-ce que sais-tu vu qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Je t'ai alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, me suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. que si tu veux qu'on dise au juste, on a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Joseph Edgar, espionne russe.
Et on passe aux pages du Journal de Montréal, tel que promis. Mais auparavant, encore un de mes interminables préambules. On se rappellera qu'un des grands arguments de la légalisation du cannabis au Canada, c'est de contrer le crime organisé. Or, Annabelle Blais nous lève un coin de voile assez étrange qui nous permet de nous demander si on n'est pas en train de remplacer le crime organisé dans la légalisation du cannabis par les paradis fiscaux, tout simplement. La moitié des fournisseurs de cannabis utilisent les paradis fiscaux. Plus de la moitié du cannabis que la Société des alcools du Québec projette d'acheter provient d'entreprises financées par les paradis fiscaux, a découvert notre bureau d'enquête. Québec a conclu des contrats auprès de 6 entreprises pour approvisionner la Société québécoise du cannabis, la SQDC, la filiale de la Société des alcools du Québec qui aura le monopole de la vente du pot au Québec. 3 de ces firmes, qui fourniront 33 000 des 62 000 kg de marijuana comptant acheter Québec en 2018-2019, reçoivent des dizaines de millions de dollars en provenance de paradis fiscaux comme les îles Caïmans, la Barbade et les Bahamas. Il s'agit de Med Relief, qui fournira 8 000 kg de pot, Aurora, 5 000 kg et Hydropothecary, 20 000 kg. Les contrats signés entre la SAQ et ses firmes contiennent des clauses de résiliation, notamment si les entreprises ne se conforment pas aux vérifications de l'Autorité des marchés financiers et prochainement de l'Autorité des marchés publics, précise le porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreau. Questionné quant à savoir si le gouvernement devrait faire affaire avec des compagnies qui reçoivent du financement des paradis fiscaux, le premier ministre Couillard a répondu hier « On ne veut pas ça ». On veut faire des vérifications, notamment lorsque des entreprises reçoivent des aides financières, a-t-il dit. Quand la filiale de la SAQ va donner les contrats d'approvisionnement, on s'attend à ce que toutes ces vérifications soient faites, mais il faut définir avec eux si ça va jusqu'aux actionnaires ou ce sont les dirigeants et jusqu'à quel niveau de direction de l'entreprise. Tout ça doit être fait par la SAQ, a-t-il ajouté. Notre bureau d'enquête a révélé en janvier dernier que plusieurs producteurs de cannabis comptaient des investisseurs dans les paradis fiscaux. Depuis, le Parti québécois, le PQ, talonne la ministre de la Santé publique, oui, Lucie Charlebois, pour que le projet de loi 157 sur le pot interdise explicitement à la SAQ de conclure des contrats avec des producteurs qui reçoivent ce type de financement. La ministre a déposé des amendements en mars dernier qui précisent que les producteurs de cannabis qui souhaitent obtenir des contrats avec le gouvernement doivent faire l'objet d'une vérification. L'autorité doit en outre considérer les sources de financement du producteur, précise le texte. Le député du PQ, Sylvain Pagé, dénonce toutefois la faiblesse de ces propositions. Les amendements seront prochainement débattus à l'Assemblée nationale et des spécialistes viendront expliquer plus en détail ces procédures, a confirmé au journal l'attaché de Mme Charlebois, Alexandra Régis. À l'heure actuelle, seul Hydropothecary a déposé un dossier pour entamer un processus d'autorisation auprès de l'AMF. Dans un chantier de construction majeur, le travailleur pivot, celui qui est probablement le mieux payé, celui qu'on considère comme le plus responsable et le plus fiable, c'est le grutier. Est-ce que c'est appelé à changer? Antoine Lacroix se pose la question dans un texte intitulé « Des grutiers formés par des entreprises ». Les entreprises en construction pourront former elles-mêmes des grutiers au lieu de devoir attendre qu'ils soient diplômés, ce qui suscite des craintes dans l'industrie. Le cabinet de la ministre du Travail, Dominique Vien, a confirmé que la nouvelle réglementation a été acceptée au Conseil des ministres mercredi. Elle devrait être mise en application dès la mi-mai. Il sera possible pour un non-diplômé qui souhaite devenir grutier de suivre un plan de formation en entreprise à l'intérieur d'une garantie d'emploi d'une durée de 150 heures durant 3 mois consécutifs. Elle comprend un volet pratique en entreprise, un volet théorique en ligne et un examen dont le seuil de réussite est de 80 %. En cas d'échec, il sera impossible pour l'aspirant grutier de demander une reprise. La seule façon d'exercer le métier sera en obtenant un diplôme d'études professionnelles. La personne qui réussit l'examen d'intégration devient alors apprenti grutier. Il sera soumis aux règles d'apprentissage comme pour tous les métiers, comme être supervisé dans ses tâches par un compagnon, indique Mélanie Malenfant, directrice des communications de la Commission de la construction du Québec, la CCQ. Elle ajoute que la CCQ estime que la voie privilégiée pour être grutier demeure celle d'obtenir un diplôme. Cette mesure est toutefois mise de l'avant pour combler les pénuries de main-d'œuvre. De plus, la nouvelle réglementation permettra dorénavant à d'autres travailleurs que des grutiers d'opérer des camions flèches afin de faciliter la vie aux employeurs puisque ce type de camion n'est pas en opération de façon continue, fait valoir Mme Malenfant. Pour obtenir ce droit, un compagnon devra réussir une formation de 80 heures ainsi qu'un examen de qualification dont le seuil de réussite est lui aussi fixé à 80 %. Il devra prouver chaque année qu'il a opéré un camion flèche pendant au moins 50 heures. L'Union des opérateurs grutiers affiliés à la Fédération des travailleurs du Québec, FTQ, dénonce ces nouvelles mesures qui mèneront à une hausse des accidents et des morts. C'est un énorme recul de 30 ans. On donne le droit d'apprendre sur le tas. Les gens qui vont donner les cours, ce ne sont pas de vrais professeurs, s'insurge Evans Dupuis, directeur de l'Union. Ça met les travailleurs et le public en danger. Et oui, bientôt, ce ne sera plus de passer sous une échelle qui se portera malheur, ce sera passer sous la flèche d'une grue. Claudia Berthion mêle, toujours dans les pages du Journal de Montréal, nous rapporte une condamnation qui est quand même assez rare au Canada, une peine de prison indéterminée. C'est un texte qu'elle signe avec la collaboration de Christian Plouffe. Il restera en prison tant qu'il sera dangereux. Un pédophile invétéré qui a accumulé 15 condamnations depuis 50 ans restera détenu tant que les autorités jugeront qu'il représente un risque pour les enfants. La juge Nancy McKenna a accolé à Jacques Allard l'étiquette peu enviable de délinquant dangereux mercredi. Le pédophile de 71 ans somnolait au palais de justice de Saint-Jérôme pendant que la magistrate lisait une décision peu élogieuse à son égard. L'ensemble de la preuve démontre que l'accusé constitue un réel danger pour la vie et la sécurité d'autrui, et ce, dans un avenir plus ou moins rapproché, a tranché la juge. Depuis 1966, Jacques Allard a été condamné à 15 reprises pour des infractions de nature sexuelle, dont 3 fois pour de la pornographie juvénile. En 1980, il a notamment écopé d'une peine de 16 ans et 2 mois de détention, pour avoir séquestré, violé et attenté à la pudeur de 6 victimes. Le pédophile a même récidivé lors de périodes de libération conditionnelle. Allard est réfractaire à suivre un traitement spécialisé en délinquance sexuelle et les thérapies qu'il a faites en prison n'ont pas porté fruit. Il a même déjà trompé des psychiatres en simulant des problèmes de santé mentale pour tenter de se soustraire à la justice. Encore aujourd'hui, il a des fantasmes déviants et ne ressent aucun remords quant à ses crimes. L'ultime condamnation du multirécidiviste pour laquelle il a été déclaré délinquant dangereux cette semaine réfère à 2 chefs de production et de possession de pédopornographie. Il devra purger au moins 7 ans avant que son cas soit de nouveau évalué par les autorités. Un projet de loi pour encadrer le time-sharing, un texte de Marie-Ève Dumont. Délai pour se faire rembourser. Contrat plus clair ou paiement étalé. Un projet de loi provinciale a été déposé pour enfin encadrer la vente de vacances dans des propriétés à temps partiel. Il est temps que l'on intervienne. C'est un domaine où il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé, souligne Sylvie de Bellefeuille, avocate pour Options consommateurs. Le projet de loi déposé par la ministre Lise Thériault mercredi vient modifier les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. On a parlé de timesharing avec l'Office de protection du consommateur lors de mon arrivée comme ministre. Ils m'ont dit qu'ils avaient au moins une centaine de plaintes sur les contrats, que les consommateurs ont gagné en cours, mais que c'était long, ardu et coûteux. Une grosse lumière rouge s'est donc allumée, explique Mme Thériault. Le journal a abondamment fait état au cours des dernières années des pratiques discutables de ces entreprises. Ces dispositions permettront au consommateur d'annuler son contrat de propriété à temps partiel, timesharing, dans les 10 jours suivant la signature, sans pénalité. Si tu te retrouves à la présentation de timesharing, que tu es sous pression et que tu signes un contrat, ça peut arriver que tu déchantes après. Tu pourras donc maintenant annuler, précise Mme Thériault, responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão da cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, entregue seu amor. Na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Numa lata beija-flor, chão na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
De la station, Bia qui nous chantait Beijo.
Nouvelle régionale et on commence avec une excellente nouvelle peut-être, surtout dans la région de Trois-Rivières où on se le rappellera, la fin du programme de Walmart des employés en intégration avait fait en sorte que plusieurs personnes handicapées s'étaient retrouvées du jour au lendemain sans emploi. Alors, Brigitte Trahan nous raconte qu'à Shawinigan, on peut faire la classe dans la cuisine. Véronique Lebrun avait l'habitude de faire la classe dans un local ordinaire. Depuis le mois d'octobre dernier, toutefois, les cours de lecture, d'écriture ou de calcul se donnent plutôt au beau milieu des chaudrons dans la cafétéria du Centre d'éducation aux adultes du Saint-Maurice. Ces 21 élèves adorent ça et ils affichent les plus beaux sourires de l'école. Ils ont tous une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais ensemble, aidés de leur enseignante et de l'éducatrice Denise Thivierge, ils viennent de réaliser un exploit. Ils ont rouvert le service de la cafétéria du Centre d'éducation des adultes, dont la fermeture avait été annoncée en juin dernier. Ces élèves spéciaux se butaient à des machines distributrices, raconte Mme Lebrun. Confrontés à cette technologie, ils vivaient des échecs. Peu d'entre eux ont la capacité d'utiliser pertinemment la nouvelle manière d'acheter. Une idée saugrenue, farfelue, peut-être même surréaliste, dit-elle, avait alors émergé des élèves, gérer eux-mêmes la cafétéria. Ce pari, à première vue insurmontable, a été gagné. Le service de cafétéria maintenant rouvert, il s'appelle Le Bolé. Quelques semaines à peine après la saga entre Walmart et ses employés en intégration, une telle annonce fait beaucoup de bien, confie Liette Larochelle, chef de service en intégration au travail communautaire pour le CIUS Mauricie et Centre du Québec. Madame Larochelle était présente à l'inauguration de la nouvelle cafétéria Le Bolé jeudi matin. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Ils viennent ici faire des apprentissages dans du quotidien, dans du réel, se réjouit-elle. C'est un projet innovateur et on encourage ça. Le but, explique-t-elle, c'est qu'au moment opportun, ces élèves puissent aller sur le marché du travail. C'est sûr qu'après l'événement Walmart, plein d'autres personnes ont été intéressées par notre clientèle. Donc on profite aussi de ça, dit-elle. Les apprentissages qu'ils font au Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice peuvent leur permettre de travailler dans une foule de milieux. Ils apprennent à être à l'heure au travail, par exemple, et comment servir la clientèle. Ils peuvent travailler dans un magasin, dans un restaurant, dans une garderie, dit-elle. Il y a plusieurs degrés de déficience intellectuelle. On va avec leurs défis, leurs capacités. On adapte le travail à ce qu'ils sont, explique-t-elle. Au début, ça leur faisait très peur, confie de son côté leur enseignante. Maintenant, ils ont apprivoisé autant les instruments que la méthode de fonctionnement de la cafétéria, constate Mme Lebrun. L'enseignante est certaine que l'expérience des cuisines ouvrira de nombreuses portes à ses élèves. Ils peuvent voir qu'ils sont capables de faire autre chose que lire, écrire et compter, explique-t-elle. Leur niveau scolaire, précise-t-elle, est l'équivalent de la maternelle et de la première année. Tous les apprentissages se font en cuisine, que ce soit la lecture ou les mathématiques. On passe la journée ici, dit-elle. Elle constate que les élèves apprennent mieux en situation réelle. Si on leur donne la chance, ils peuvent démontrer à tout le monde qu'ils sont capables. Ils ne sont pas si différents que ça, estime-t-elle. Ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. Dans sa chronique dans les pages du Soleil, François Bourque se demande si on n'est pas en train de détourner le procès Normando de ses vraies fonctions. Le procès pour fraude et corruption de l'ex-ministre Marc-Yvan Côté est en train de s'enliser dans les procédures judiciaires au point d'en perdre sa finalité. On ne cherche plus à savoir si M. Côté, l'ex-ministre, Nathalie Normando et quatre autres co-accusés ont transgressé des règles sur l'octroi de subventions à des fins politiques. Le débat a glissé sur l'intégrité du système judiciaire, sur la protection des sources journalistiques et sur la responsabilité de l'UPAC dans les fuites d'informations dans les médias. Assez qu'on a l'impression d'assister à un détournement de procès. M. Côté a droit à une pleine défense. Les moyens et arguments mis de l'avant par son avocat, Maître Jacques Larochelle, ont cependant pour effet de retarder le procès sur les faits, voire l'éviter s'il obtient, comme il le demande, un arrêt des procédures. Maître Larochelle allègue qu'il n'est plus possible d'avoir un procès équitable à cause des fuites d'informations dans les médias. Sa thèse est que si ces fuites proviennent d'un haut responsable de l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, cela engage la responsabilité de l'État et justifierait un arrêt des procédures. Maître La Rochelle insiste donc pour connaître la provenance de la fuite et veut forcer la journaliste Marie-Maude Denis de Radio-Canada à dévoiler ses sources. Le juge André Perrault de la Cour du Québec s'y est opposé, mais sa décision a été renversée en Cour supérieure il y a quelques semaines. Le juge Jean-François Aymond estime que la journaliste doit dévoiler sa ou ses sources dans deux reportages diffusés à l'émission Enquête. Ce dernier jugement étonne, déçoit et inquiète. La Cour suprême a reconnu l'utilité publique des sources confidentielles des journalistes et Ottawa a modifié la loi sur la preuve pour mieux les protéger. Sans confidentialité, personne ne prendra le risque de dévoiler des informations aux médias et d'encourir des représailles. Il allait de soi que Radio-Canada irait en appel de la décision du juge Aymond et cela a cependant pour conséquence que le procès dans le procès vient d'être renvoyé en Cour suprême. Le procès pour corruption est d'ici là interrompu et on commence à se demander quand il pourra reprendre. Dans la région de la capitale fédérale, plus précisément à Gatineau, le sujet qui retient l'attention, c'est la démission en bloc de tous les commissaires du bureau de l'Ombudsman. Pour vous mettre dans le contexte, sachez que la Ville a confié au vérificateur général de l'administration municipale, oui, de calibrer, si vous le voulez, le fonctionnement du bureau de l'Ombudsman. Ça a amené à la démission de la présidente du bureau. Eh bien, tous les commissaires ont démissionné en bloc en appui. Démission en bloc au bureau de l'Ombudsman, c'est un texte qui, donc, nous vient des pages du droit. Le président du bureau de l'Ombudsman de Gatineau, André Gay, en a assez et jette l'éponge. Il a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions d'Ombudsman. Quand j'ai vu le peu d'appui et le peu de considération qu'il y avait au conseil pour le bureau de l'Ombudsman mardi, j'ai décidé que c'était terminé pour moi, a-t-il indiqué au droit. C'est très décevant d'avoir dû en arriver là. J'aurais préféré une fin de mandat plus sereine, mais les carottes étaient cuites. Le bureau de l'Ombudsman traverse une véritable tempête depuis le dépôt du rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière, dans lequel la crédibilité de l'Ombudsman a été vivement attaquée, voire réduite presque à néant. Pour l'institution du bureau, c'est un très dur coup, admet M. Gay. Je ne sais pas si elle va se relever de ça. Nous sommes tous des bénévoles, tous des gens de bonne volonté qui sont là pour servir le citoyen. M. Gay remarque toutefois qu'il n'y a pas que le bureau qui est ébranlé aujourd'hui. Ce sont plutôt deux institutions importantes qu'ils sont, dit-il. Le bureau, mais aussi la vérificatrice générale, dont le rapport et l'exercice ont été vivement critiqués. Pour l'instant, les commissaires du bureau demeurent en poste, mais la secrétaire générale, Hélène Chagnon, précise qu'une rencontre dont l'issue est encore incertaine est prévue dans un court délai. Maintenant, je peux vous le dire, cette rencontre a eu lieu et les commissaires ont démissionné dans la foulée. À Magog, une manifestation de plus de 1000 personnes, ça retient nécessairement l'attention. En l'espèce, il s'agissait de plus de 1000 travailleuses de CPE en colère qui manifestaient. Jean-François Gagnon en parle dans les pages de la Tribune. Une manifestation de grande ampleur s'est déroulée à Magog jeudi. Des employés syndiqués provenant d'une centaine de centres de la petite enfance, des CPE, ont marché à travers le cœur de la ville avant de finalement s'arrêter au parc des Hautes Sources voisin du CPE La Pleine Lune. Visiblement irrités, la partie patronale a déploré la stratégie syndicale. Difficile de savoir combien de travailleuses ont pris part à la marche et à la manifestation qui a suivi jeudi. Leur nombre était assurément supérieur à 1000, mais les organisateurs ont parlé de 2000 participantes. De nombreuses participantes provenaient de la région de l'Estrie. Toutefois, on retrouvait également parmi les manifestantes des centaines de travailleuses résidant dans les secteurs de Montréal, de la Montérégie et du centre du Québec. Selon les informations obtenues, les questions de nature salariale sont déjà réglées. Les enjeux problématiques concernent plutôt les horaires de travail, les vacances, l'application de l'ancienneté ainsi que le dévoilement des états financiers des CPE. La CSN a décrié l'attitude de la partie patronale, en l'occurrence l'Association patronale des CPE de l'Estrie. Elle juge que les négociations piétinent et ne comprend pas pourquoi l'association refuse d'offrir aux travailleuses des conditions identiques à celles qui ont été obtenues par leurs collègues des régions voisines. Les enfants vous adorent et les parents aussi. En fait, il y a seulement une association qui ne vous aime pas. Mais on ne vous laissera pas avoir des conditions de travail inférieures à celles offertes ailleurs, a lancé le président du Conseil central de l'Estrie, Denis Baudin, devant les manifestantes jeudi. Une courte pause et ce sera le tour de la culture.
Alain Souchon et sa chanson « L'amour à la machine ».
En culture cette semaine, ce sont les arts picturaux et plus particulièrement Saint-Jérôme qui attire l'attention. Saint-Jérôme, je parle évidemment pas de la ville, mais bien du saint, le Saint-Jérôme, auteur de la Vulgate, la version de la Bible que les catholiques connaissent bien. C'est aussi un tableau de David qui est à Québec et que la fabrique a décidé de mettre en vente. Là, il s'agit de savoir qui va l'acheter et avec la permission de qui. Yann Bussière s'est posé la question dans les pages du Soleil. Vente du Saint-Jérôme, Rome pourrait devoir trancher. Peu importe à quelle institution muséale le tableau Saint-Jérôme entendant la trompette du jugement dernier sera vendu, les plus hautes instances de l'Église catholique devraient avoir la décision finale quant au sort de la toile du peintre néoclassique Jacques-Louis David que tente de vendre la Fabrique Notre-Dame de Québec. En fait, peu importe à quel musée nous vendons, c'est l'évêque qui aura le dernier mot. Et je dirais même que pour une vente aussi importante, ça doit aller jusqu'à Rome, a déclaré au Soleil Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec, à propos de l'œuvre évaluée à 6,2 millions de dollars canadiens. Le dossier, qui fait déjà beaucoup jaser au Canada, rebondira donc fort probablement au Vatican avant de connaître sa conclusion. Mgr Bélanger avoue qu'il n'aurait jamais pensé que la mise en vente de l'œuvre qui avait été donnée à la fabrique dans les années 30 par les sœurs Geneviève et Henriette Cramaille déclencherait une telle controverse. Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa tente de vendre la Tour Eiffel de Marc Chagall pour acheter l'œuvre de David. Mais le Musée de la civilisation de Québec a blâmé l'institution ontarienne de ne l'avoir jamais contacté à ce sujet alors qu'il détenait un droit de premier refus sur l'œuvre du peintre français en vertu d'une convention de dépôt ratifiée avec la fabrique. On ne s'attendait pas à une réaction aussi prononcée. Actuellement, la controverse est très forte et on veut qu'elle trouve une solution. Nous sommes en contact avec les gens qui veulent avoir le tableau. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il demeure au Québec, mais nous ne pouvions pas ne pas l'offrir à Ottawa puisque le Musée des beaux-arts du Canada l'a exposé durant 18 ans. Le Musée de la civilisation en a à la garde, bien sûr, mais il ne l'a jamais exposé, résume-t-il. Le prêtre indique d'ailleurs avoir proposé l'œuvre au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Dans les deux cas, on parle d'un intérêt mesuré et d'offres timides. Je comprends qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour faire l'achat de cette œuvre. Ça nous a amené à aller voir ailleurs à l'international, histoire d'avoir une idée de la valeur de l'œuvre. Et on a vu un vif intérêt. Par contre, je le répète, on n'a jamais demandé de certificat d'exportation. Pour la fabrique, la vente du tableau servirait à alimenter un fonds de stabilisation qu'elle est en train de créer pour assurer, à travers les décennies et les siècles, l'avenir de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et de l'église Notre-Dame des Victoires. Théâtre, tiens, et plus particulièrement théâtre engagé. D'abord, une courte nouvelle pour vous dire qu'on remonte Oléana à Bromont. Oléana, c'est cette pièce de Mamette que joue avec beaucoup, beaucoup d'aplomb. J'oublie son nom, quelle horreur. C'est une excellente pièce qui met en scène un professeur et une étudiante dans un huis clos de 3 actes et qui s'inscrit parfaitement dans les événements actuels de MeToo. Alors, si vous voulez faire du théâtre d'été cet été, donc, et voir une pièce qui n'est pas une comédie, je vous recommande fortement d'aller voir Oléana à Bromont. Par ailleurs, à Saguenay, Mulliat, l'espoir d'un dialogue entre les peuples, c'est la pièce montée pour parler d'intégration des Premières Nations. Natacha Canapé-Fontaine, Christophe Payeur et Marco Collin font partie de la distribution de Mulliat, une pièce qui fait du bien à l'âme puisqu'elle laisse entrevoir la possibilité d'un dialogue entre Québécois et Amérindiens. Elle a été présentée jeudi soir à la salle Pierrette Gaudreau de Jonquière. C'est un texte de Daniel Côté. Le public nombreux s'est levé pour applaudir les comédiens Marco Collin, Natacha Canapé-Fontaine, Charles Bender et Christophe Payet qui, pendant plus d'une heure, avaient défendu Mulliat, une pièce qu'ils ont créée avec la complicité du metteur en scène Xavier Huard. Rien de très anormal, sauf qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'air. Appelons ça de l'espoir, mêlé à une forme d'apaisement. L'histoire qui venait d'être racontée est celle de Ninou de Mastoyatch, Chanis, qui préfère qu'on l'appelle Charles. Sitôt arrivé à Montréal, il essaie tant bien que mal d'apprivoiser la grande ville et aussi son colocataire, un pur laine prénommé Christophe. Celui-ci connaît tous les replis de l'Europe, mais rien du Québec à l'extérieur du 514. Sa bonne volonté est manifeste, d'autant que son extrême maladresse qui, rapidement, va retrousser le poil du nouveau venu. Une crise éclate le jour de l'anniversaire de Chanis Charles. Croyant rendre hommage à sa culture, Christophe lui remet une coiffe de plume en cadeau. La réplique cheap d'un objet cérémonial sacré, tonne le gars du lac Saint-Jean. D'autres incidents suivront, dont un qui met en cause le frère aîné, Marco. Ayant assimilé le départ du cadet à une désertion, il atterrit dans l'appartement et cherche à rétablir les ponts, ignorant que l'autre se sent étranger partout, y compris parmi les siens. On approche d'une résolution qu'annonçait les chants amérindiens entonnés doucement par Marco Collin et Natacha Canapé-Fontaine, ainsi qu'une jolie danse et des échanges en langue innu, sans parler du moment où le comédien, originaire de Mastoyache, est sorti de son personnage afin de s'adresser aux spectateurs. Pour couronner cette intervention qui a allégé l'atmosphère, il leur a fait répéter un chapelet de mots avant de les féliciter. Vous venez de compter jusqu'à 10. Un autre trait d'humour est survenu lorsque Natacha Canapé-Fontaine a campé une amie de Christophe, une blanche qui méprise les Amérindiens. Impossible d'oublier qui incarne ce personnage. En effet, même quand celui-ci profère des insanités du genre « on n'a pas à s'excuser d'avoir gagné », c'est aussi sur un ton léger que Christophe et les deux frères ont pris congé du public au sein duquel on remarquait plusieurs représentants des Premières Nations. Allez, le mauvais goût ne tue pas, mais il peut encore être interdit par la justice. Mexique, la justice interdit la vente d'une Barbie à l'effigie de Frida Kahlo. Un juge mexicain a interdit au groupe américain Mattel de commercialiser au Mexique une poupée Barbie à l'effigie de la peintre Frida Kahlo, donnant ainsi raison à la famille de l'artiste, a annoncé jeudi l'avocat de cette dernière. Cette décision s'applique immédiatement, mais Mattel peut faire appel, a indiqué l'avocat Maître Pablo Sangre. La famille de Frida Kahlo espère désormais pouvoir engager une procédure juridique aux États-Unis afin d'obtenir que la poupée soit également interdite dans ce pays, a-t-il précisé. Le juge a ordonné à Mattel et à ses distributeurs qu'ils s'abstiennent de tout acte tendant à utiliser la marque, l'image ou l'œuvre de Frida Kahlo. Contacté par l'agence France-Presse, les représentants de Mattel au Mexique n'étaient pas joignables jeudi soir. En mars, le fabricant américain de jouets avait dévoilé une série de poupées à l'effigie de personnalités baptisées « Inspiring Women », femmes inspirantes, parmi lesquelles figure Frida Kahlo. L'épouse du grand muraliste mexicain Diego Rivera et un temps la maîtresse du révolutionnaire russe exilé Léon Trotsky, Frida Kahlo, est considérée comme l'une des plus grandes peintres du 20e siècle pour ses émouvants autoportraits dans lesquels elle exprime à la fois sa douleur physique et son isolement. Mais la famille de l'artiste mexicaine a contesté à la société californienne le droit de commercialiser cette poupée. « Je suis ravi, car je crois que justice a été rendue. C'est nous, la famille Kahlo, qui détenons les droits pour toutes ces choses », a dit à l'AFP Mara Romeo, la petite nièce de l'artiste. Allez, la chose me revient, je vous le dis tout de suite. Oléana, c'est Raymond Cloutier qui joue dans la pièce. Voilà, je l'ai retrouvé. Il présentera non pas à Bromont, mais à Sutton. Donc, mea culpa, mea maxima culpa. Mais je vous invite tout de même à aller le voir. Ça va être aussi bon à Sutton que ça l'aurait été à Bromont. Charles Taylor, l'homme de la réconciliation. Un texte de Lisa Marie Gervais. C'est rare qu'on parle de philosophe, mais vous allez voir, ça s'intègre. Il est un peu un Socrate des temps modernes. C'est le genre de philosophe qui préfère de loin les conversations de la rue à la tour d'ivoire, aimant poser les questions plutôt que se les faire poser. Mais ces jours-ci, Charles Taylor n'aura pas le choix de se prêter au jeu de l'entrevue, Métropolis Bleu lui décernant son grand prix du festival pour l'ensemble de sa carrière d'essayiste. « Je suis assez engagé dans la cité », déclare l'homme de 86 ans avec l'humilité qu'on lui connaît. Il y a des intellectuels qui se tiennent à l'écart, mais ce n'est pas mon cas. Dès l'enfance, le philosophe, né d'un père anglophone et d'une mère francophone, se sentait investi de la mission de réconcilier les deux solitudes. C'est l'histoire de toute ma vie. Quand j'étais petit, j'entendais des gens entièrement anglophones parler des francophones et vice-versa, mais ils étaient complètement à côté de la traque. Ils interprétaient de travers ce que disait l'autre sans réellement se comprendre. Alors j'ai commencé ce travail ingrat d'expliquer les visions des uns et des autres, se rappelle cet ex-étudiant d'Oxford et professeur émérite de l'Université McGill. Aujourd'hui, on se déchire beaucoup moins. Assez rapidement, son engagement social l'a mené jusqu'en politique, alors que dans les années 60, il s'est présenté à 4 reprises aux élections fédérales pour le NPD, dont une fois en 1965 contre le futur premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Une époque riche où Charles Taylor dit avoir appris l'essentiel, surtout lors des séances de porte-à-porte, mais qui, heureusement, croit-il, n'a rien donné de concret. « Ça m'aurait peut-être ruiné, plaisante-t-il, non pas au point de vue financier, mais je ne sais pas si j'aurais été heureux finalement. J'ai énormément aimé pouvoir écrire mes livres, faire mon travail. » Un travail que de plus en plus d'intellectuels comme lui ont du mal à faire à l'ère du tout à l'opinion et de l'instantanéité. Le philosophe essayiste célèbre pour son ouvrage « Les sources du moi » et d'autres traduits en une vingtaine de langues s'en inquiète. Malheureusement, le rôle des intellectuels n'est plus ce qu'il était. Une perte de terrain qu'il explique par la fragmentation des auditoires, l'enfermement de certains publics qui ne s'abreuvent qu'à une seule source médiatique et où les voix des grands penseurs ne percent plus la cacophonie de l'opinion. Aujourd'hui, remarque-t-il, c'est CNN ou Fox, TVA ou Radio-Canada, sans parler des réseaux sociaux préférés ou aux médias traditionnels. Les gens croient une information qui leur vient de leur cercle d'amis, souvent complètement fausse, et il n'y a pas moyen d'apporter une autre vision, dit ce spécialiste de Hegel, en déplorant que cela laisse libre cours à l'islamophobie stupide et aux pires théories du complot. C'est tout un problème. N'empêche, Charles Taylor reconnaît que la situation est meilleure au Québec, où, à tout le moins, on écoute encore la parole des intellectuels. Je le vois, l'importance que les politiciens accordent à notre rapport et de la Commission. C'est plutôt rare, souligne-t-il. Mes collègues dans les grandes universités américaines sont stupéfaits que je sois plutôt engagé en politique. Ça ne se fait jamais là-bas. Oui, de temps en temps, ils écrivent un texte d'opinion dans le New York Times, mais penser qu'ils pourraient avoir une prise plus importante sur le débat public ne leur vient même pas à l'esprit. Ils sont résignés à être des exilés dans leur propre processus politique.
S'il faut abattre la bête pour être heureux d'être soi, j'irai me terrer au fond des bois avec ma rage comme le tout dernier rempart à la douleur de mourir encore une fois. Un piège à ours. L'instinct la retient par un fil. Mais tu veux tuer la guerre en moi. Déchirer la chair indocile. Avec tout autour, je les entends, tous ces gens armés jusqu'aux dents. Et je résiste encore une fois. L'amour est un piège à ours. L'amour est un piège à ours. De liberté et tout relâche et brise enfin. Le sang chaud à la lie du vin je me relève et je marche de revers jusqu'à toi. Tous les chemins sont mon chemin. Est un piège à os. L'amour est un piège à os. L'amour est un piège à os.
David Portolans et sa chanson « Piège à ours ».
Dernière plage de cette émission. Donc, celle où les animateurs, particulièrement les remplaçants insécures, réalisent tout ce qu'ils ne pourront pas lire et doivent faire des choix. Eh bien, j'en fais un qui me fait plaisir puisque je vous lis du José Blanchette. Sa dernière chronique « Cool à la folie » nous parle de bipolarité. Même l'imperturbable Pascal Nadeau l'a échappé après le bulletin de météo du téléjournal cette semaine. Il faut être fait fort. Chaque mois d'avril, le 13 précisément, je repense à mon père qui s'est enlevé la vie dans cette grisaille de trop. À l'époque, il y a 15 ans, on disait dépression, pas bipolarité. On ne parlait même pas de bipolarité. On mentionnait maniaco-dépression du bout des lèvres et on ne soupçonnait même pas l'importance du trouble affectif saisonnier sur l'humeur. C'est en visionnant la télésérie « Trop », mettant en vedette deux sœurs, dont l'une est bipolaire, que j'ai fait la paix avec la maladie. On dit « trouble de santé mentale ». J'ai fait la paix avec l'idée, en tout cas, que j'ai 8% de risque de l'être à 100%. Un chiffre de plus, à croire ou non. Toute ma routine de vie, on préfère dire hygiène, mais on croirait une commandite d'Oral-B, est construite autour de ce 8%. Fou, folle, folle ou dégenré de même. Bien sûr, une comédie s'attarde surtout à l'aspect manie plutôt qu'au versant dépressif. C'est plus divertissant, plus cocasse. N'empêche, la comédienne Virginie Fortin, qui incarne Anaïs, la bipolaire, nous rend la dérive de l'humeur attachante et crédible au possible, qu'elle soit en bobette dans la rue ou vidant ses médicaments dans la cuvette des toilettes en se croyant guérie. La complicité entre les deux sœurs fait habilement avaler la pilule. Une artiste visuelle de mon entourage, Sarah, prénom fictif, a appris l'année dernière qu'elle avait la bipolarité. « Je ne suis pas une maladie, je ne suis pas une cause, mais trop est un début d'acceptation du trouble mental. » On aime Virginie Fortin pour sa témérité, son énergie. Ça fait du bon cinéma parce que ça permet une liberté par procuration. Par contre, Sarah, mère célibataire de 3 enfants en garde partagée, est bien consciente que l'entourage d'Anaïs est assez idéal et lui procure un soutien inespéré. Moi, j'étais le clown triste pendant 5 ans. J'étais une morte vivante 80% du temps. C'est moins sexy à l'écran. Essayez de s'enlever la vie aussi. Sarah a déjà parlé de sa dépression en public, mais considère que le tabou est encore présent pour la bipolarité. Ça lève doucement, mais la stigmatisation est forte. J'ai mis 3 dépressions à sortir du déni. La folie, ça passe mieux dans le milieu de l'art car j'étais tellement créative et survoltée que c'était sublimé. On a tellement d'idées, on veut changer le monde, on a accès au divin. Non, nous sommes le divin. D'ailleurs, Robin Williams disait, et c'est cité dans le texte, « On ne nous donne qu'un seul petit grain de folie et si on le perd, on n'est plus rien. » Belle cause pour la cause a fait bouger des choses depuis 2010, libérant une certaine parole. Paru la semaine dernière, un livre comme « Mes tempêtes intérieures » de Vanessa Beaulieu qui regroupe 25 personnalités connues, dévoilant tantôt leur dépression, tantôt leurs troubles anxieux, leur bipolarité, j'en ai compté 4, leurs troubles alimentaires, leurs TOC, n'auraient pas vu le jour il y a 10 ans. Les Varda Étienne, elle a publié en 2009 « Maudite folle » sur sa bipolarité, ne couraient pas les rues. Aujourd'hui, pour toutes sortes de aujourd'hui pour toutes sortes de troubles mentaux divers, Biz, Florence K, Jean-Marie Lapointe, PA Méthode, Jean-Nicolas Véraud, Ingrid Falaise rendent un fier service à la société en sortant du placard de façon honnête et en affichant une vulnérabilité qui a nourri leur art mais empoisonné une partie de leur vie, souvent dès l'adolescence. De plus, on comprend, les lisant, qu'un trouble peut en cacher un autre, qu'une bipolarité peut s'accompagner d'hypersensibilité, que le petit joint peut provoquer une psychose, qu'une dépression peut se doubler d'anxiété, que le mal de vivre rattrape une personne sur cinq au cours de son existence et que nul n'est à l'abri d'un court-circuit. J'ai été étonné par la liberté de parole qui entourait cette mise à nu d'un de nos organes les plus secrets, le cerveau. Marie-Andrée Labbé, l'auteur de « Trop », ne semble pas si surprise. C'est un tabou qui commence à cesser de l'être. Ma génération, les 35 ans, les enfants rois narcissiques, on veut être parfait, on a besoin de le dire. Moi, je suis TDAH ou bipolaire. On a besoin de s'exprimer et on assume davantage malgré la peur d'être ostracisé. Inspirée par plusieurs personnes de son entourage, la jeune femme s'intéresse surtout aux gens différents, car ce sont eux qui la font avancer. Le personnage d'Anaïs lui permet de verbaliser haut et fort ce qu'elle pense. Le public était bien plus scandalisé par la sexualité féminine que par la maladie mentale dans la série. Un grand psychiatre, Jean Houry, définit une folie très répandue chez les gens qui ne sont pas dans les asiles, ceux qu'ils appellent les normopathes, en ces termes, des gens qui se prennent pour leur fonction. Certains psys du Royaume-Uni commencent à prescrire la peinture et le jardinage à leurs patients anxieux ou dépressifs. L'émission Découverte de dimanche dernier nous présentait deux cas, l'un d'anxiété doublée de choc post-traumatique et l'autre de dépression, guéri en une ou deux séances par la prise de LSD ou de MDMA, dans le cadre d'une recherche à Los Angeles. J'ai écrit à une amie psychiatre pour lui proposer un road trip hallucinogène. Je vais être cobaye. J'ai lui demandé où l'on en était quant au tabou en santé mentale. Dans un formulaire d'emploi, si tu es honnête et que tu écris un diagnostic, tu es discriminé. Si tu ne l'écris pas et que tu tombes malade, tu peux ne pas être assuré. On a encore du chemin à faire socialement, confie-t-elle. Et on aseptise les mots. On ne dit pas dépression, on dit burn-out. On préfère TDAH à anxieux et insomniaque plutôt que bipolaire, tout sauf la référence psychiatrique. Ça fait peur de perdre le contrôle. Il y a une glorification de tout ce qui est neuro en ce moment, alors que les maladies psychiatriques se passent dans le même cerveau. Et voilà qui termine cette édition du 20 avril du quotidien Des Quotidiens. Rassurez-vous, Hélène Denis sera de retour lundi. Pour ma part, je vous invite à rester à l'écoute puisque Kevin Breton suit un instant avec une émission sur le sport. Je remercie Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Au revoir.